France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
A-t-on la liberté, au pays des droits de l'homme, de sortir de chez soi pour une balade en forêt, pour une virée à la plage ou dans un registre plus militant, pour une manifestation tout nu, ou dit de façon plus imagée, dans son plus simple appareil? Non, dit la loi. L'article 222-32 du Code pénal précise que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ce qui hérisse le poil, sans mauvais jeu de mots, des défenseurs de la nudité. Ces adeptes du naturisme revendiquent un rapport au corps délesté des conventions associées au port des vêtements. Ils revendiquent une forme de liberté quant à la façon dont il convient de se vêtir ou pas. Le 8 septembre 2009, Hubert Prolongeau donnait la parole à quelques-uns de ces adeptes du naturisme rencontrés dans un coin de nature ou au cœur des villes. Des témoignages contextualisés par les explications de la géographe Francine Barthe Deloisy. Cette émission d'Hubert Prolongeau a été réalisée par Rafik Zénine pour Sur les Docks.
De la jungle.
Il va pas pleuvoir beaucoup, hein. Juste un petit peu.
Et
hein,
je vous laisse un petit souvenir.
Prévois ton petit truc au cas où, un cahouet.
Ça se met à tourner.
Ça, c'est
la cape,
et puis, je vais donner un petit flyer pour.
Parce que sinon, on attrape froid facilement avec l'humidité. Hein.
Quand on marche, non? On marche bien.
En marchant, ça va.
En marchant bien, c'est bon.
Mais il y aura des moments où on marchera plus. Donc, si on bouge pas et puis on est humide, là, on va avoir froid.
Depuis quelque temps, il arrive qu'on croise sur des sentiers de randonnée tout à fait publics des groupes d'hommes et de femmes complètement nus qui se promènent, savourant à pleine peau les caresses du soleil et du vent. Ce sont des randonneurs, adeptes de ce sport nouveau qu'est la randonnée. Mais cette apothéose hédoniste est aussi une façade. Derrière ce qu'ils se refusent à appeler une exhibition, se cache une revendication très forte de liberté et de tolérance, revendication qui en a mené certains jusque sur les bancs des tribunaux. La nudité interpelle, attire, fascine. Elle est la porte ouverte à la médiatisation. Les manifestants de tous bords l'ont bien compris. De plus en plus d'associations, écologie, droits des animaux, féminisme, utilisent le corps nu comme appât, comme socle d'action spectaculaire. Pourquoi ce choix? Comment ces militants vivent-ils cet engagement qui met à mal leur pudeur et risque de les faire tomber sous le coup de l'article 222-32 du Code pénal qui assimile la nudité publique à l'exhibition sexuelle? Ce voyage parmi les militants nus démarre en forêt d'Étrechy, près de Paris, un jour un peu venteux de juillet dernier, avec Bernard, Jacques, Sylvie, Irwin et Sylvain, des membres de l'APNEL, Association pour la promotion du naturisme en liberté.
On a Irwin. Hyper rapide, ouais, moi, hyper rapide là, le clic. Voilà, un
donc,
clic.
Donc là, on va quand même se mettre un petit peu d'anti-moustique parce que c'est la période jusqu'au 15 juillet.
Moi, j'en ai pas. Si vraiment.
Si tu veux. Si vraiment t'es attaqué.
Je suis attaqué. Voilà. En principe, je suis
bon,
pas attaqué.
T'as raison. On va attendre quand même de voir parce qu'on
oui,
ne sait jamais.
Inutilement.
Il est possible que les moustiques aient déjà mangé. Donc,
Puis vu le temps aujourd'hui, voilà. Moi, je serais étonné qu'il y ait beaucoup de moustiques.
Alors, j'ai aussi la pompe à venin parce qu'il y a malgré tout dans cette du parc régional, pas mal de vipères.
Ah ouais.
Voilà, les vipères sont protégées. Là, on va très certainement rencontrer.
Tu as amené du chlorure de magnésium?
Non, mais ça suffit. Ça, hein,
suffit.
Ça m'a enlevé là.
Parce
que une piqûre de vipère, on dit que c'est mortel, mais c'est mortel dans des cas extrêmes. Donc, avec la pompe
et
en plus.
Reste.
Oui, puis avec la pompe, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Hein, ça,
okay.
On attend largement d'aller.
Enfin.
Voilà.
Donc, alors,
on est donc dans le parc régional qui se trouve à partir d'Étrechy et ça va jusqu'au Loiret en fait. C'est un parc régional assez important au sud de Paris.
D'accord. Hein,
qui englobe aussi, je pense, Fontainebleau. Enfin, c'est assez vaste.
D'accord.
Voilà. Donc tout le monde se prépare, se déshabille, se met,
ouais,
comme on dit généralement, en
on
tenue
se met
de peau.
En tenue.
voilà, ou en tenue naturelle, ou en tenue de naissance, comme disent les Anglais.
Tenue de naissance, voilà. J'aime bien ça.
Donc Bernard.
Et comme on dit en espagnol, oui. En cuir.
En cuir.
En cueros, voilà, on dit en espagnol. Oui. On se met en cuir.
Donc qui va faire le taureau?
Tiens, voilà. Il est là. Le taureau, il est là.
Oh, on entend un peu le vent dans les feuillages, c'est agréable. On a la musique des feuilles. C'est très poétique tout ça.
Non, tu m'as pas demandé d'amener.
Hein, la musique des feuilles.
Mais tout est prêt pour demain, Jacques. Alors j'ai pas mes chapeaux. Voilà.
Quelques petites photos pour immortaliser l'événement.
Oui, parce qu'on n'a pas de. Ça sert pas à grand chose, de toute façon. Non, mais tu préfères pas qu'on les mette dans un sac ?
Ouais, mets-le dans un sac quand même. Si on vous demande
la chose, vous avez tout. Le naturisme est pratiqué ici depuis très très longtemps, puisqu'on retrouve des liens internet qui parlent de cette habitude d'aller se faire en fait simplement bronzer sur la roche, qu'on appelle la roche ronde, hein, qui est un gros massif de grès d'à peu près 30 ou 40 mètres de diamètre. Et à partir de là, on a tout un tas de chemins qui sont très très peu fréquentés. Donc ça nous permet de nous promener tranquillement, de pouvoir découvrir la nature au fur et à mesure des saisons, puisque ça se pratique aussi en hiver. En hiver, on a plutôt tendance d'ailleurs à faire du jogging que de la marche.
Petits oiseaux.
Voilà. En hiver, c'est possible quand le temps est ensoleillé, bien sûr, mais un autre élément est important, c'est quand il n'y a pas de vent. Parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait du vent nous oblige à se dépenser davantage, puisqu'il faut qu'il y ait un équilibre, une thermorégulation en quelque sorte, un équilibre entre les dépenses énergétiques et puis la fraîcheur qui nous refroidit.
Oui, parce que là, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Ça fait rien, on y va quand même.
Aujourd'hui, pour nous, c'est une température idéale où on peut même rester assis, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant de pratiquer la randonnée d'une façon, j'allais dire, un peu militante, un peu, pour certains, un peu excessive, pour moi, me promener en hiver, ça me paraissait totalement impossible. On va attendre le restant de la troupe.
Au soleil,
tout à fait, ça fera mieux.
Dans une petite clairière avec les chants des oiseaux. Ah là là, c'est bucolique. C'est génial. On a vraiment une journée idéale.
Ouais. Non, c'est très bien.
Et un petit vent comme ça, avec 20 degrés, c'est pas gênant. Voilà. Ce qui est vraiment difficile, c'est où on attrape froid. C'est ici, il fait moins de 12 degrés qu'il y a du vent. Là, on refroidit
vite. Oui, c'est 12 degrés, là, effectivement.
12 degrés, c'est vraiment le...
Si on reste immobile, on peut plus.
Voilà. Mais sans vent, c'est pas gênant. Hein. Moi, jusqu'à 0 degré sur la neige, même sur la plage, il a neigé, on avait la gelée, c'est resté 4 jours. Aucun problème. Ouais. On supporte très très bien, du moins qu'il n'y a pas de vent.
Très très bien. Et puis, on va continuer. Alors, on va essayer de voir.
Pas la troisième vitesse.
Je vais trop vite.
Sinon, le groupe est complètement distant.
Ça a commencé comment, Yerwin?
Moi, ça fait 20 ans que j'ai commencé à aller sur la plage. Bon, j'ai eu des gros problèmes de santé, donc j'avais besoin de me reposer. Et puis, je sentais qu'il y avait une pression sociale. Qui me bloquait, donc je me suis dit je veux m'affranchir de toutes ces peurs par rapport au corps, donc je suis allé sur une plage isolée tout seul pour m'habituer à mon propre corps en liberté, et puis petit à petit j'ai vu que rien ne se passait, le monde ne s'écroulait pas, il ne s'arrêtait pas, donc je me suis dit finalement il n'y a pas de problème par rapport à ça, donc petit à petit je me suis habitué, après à la présence des autres et à dire que les autres me voient après tout, qu'est-ce que ça peut faire, on est tous pareils. Et puis petit à petit, on s'affranchit de la peur du regard de l'autre. Et ce que la plupart des gens m'ont raconté d'ailleurs, c'est la même chose, le plus difficile, c'est le regard de l'autre. Et quand on a fini par se dire que le regard de l'autre, il n'a pas de raison d'être plus mauvais que le sien, bah ça se passe bien, et on accepte son propre corps, et on accepte que l'autre le regarde, et ça ne pose plus de problème. Donc on ne vient pas le montrer, mais on ne le cache pas non plus, et on n'est plus gêné que l'autre le regarde. C'est aussi simple que ça.
Mais en fait, ça provoque pas. Si aux gens on leur demande d'abord est-ce qu'on vous dérange, après il n'y a plus de provocation. Les gens ils l'acceptent, il n'y a pas de souci. Parce que souvent les gens sont de bonnes.
Quand tu as 40, si tu as 30, 40 personnes, tu en as automatiquement une qui va te dire non. Donc c'est pas peine de demander, tu restes couvert.
Là on est allé, par exemple, je suis allé une semaine en Corse en juin. Excuse-moi pour tes pieds. Tous les randonneurs qu'on a rencontrés, donc on leur a demandé gentiment est-ce que ça vous dérange si on est nu. Et les gens sont tout à fait, surtout des gens qui font de la randonnée, qui aiment bien la nature. Bon, dans une cité un peu difficile, dans un quartier de Paris, etc., ça serait effectivement plus perçu comme. Une agression dans la mesure où ils ont leur territoire, etc. Quand on est dans la nature, on a vraiment des gens qui sont en phase avec nous, en fait. Ils ont simplement l'impossibilité pour eux, mentalement, de se mettre dans la même tenue que la nature, que les animaux, etc. Mais au fond d'eux-mêmes, la pensée qu'ils ont vis-à-vis de nous, c'est quelle liberté vous vous offrez, quoi. C'est pas du tout...
Il y en a qui le disent, d'ailleurs.
Voilà, ils nous disent, si je pouvais faire pareil, c'est...
Ah, beaucoup me disent, j'ai peur, je ne le fais pas, je voudrais, mais j'ai peur.
J'ai peur de la loi,
j'ai peur
de l'attitude des autres, voilà, c'est ça.
Des autres.
C'est... Et en fait, les autres sont bien souvent tout à fait... ça serait aussi leur espoir de pouvoir faire la même chose, donc ils vont pas avoir une attitude négative, quoi, c'est...
Il y a une fausse idée, je trouve, qui est répandue dans la société, c'est que le regard des autres est systématiquement mauvais. Ouais. Et je me suis aperçu que la plupart des cas, ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. La plupart des gens sont ouverts et il y a quelques-uns qui sont très agressifs par rapport à ça. C'est tout.
On va mettre nos...
Il y a des gens qui arrivent.
Il y a des gens qui arrivent.
Parce que ça, c'est très... Voilà.
Moi, je ne m'habille pas.
Oui, non, mais d'accord. Bien sûr.
Pardon. Tiens, voilà. Tu mets ça, voilà. Ouais. Donc là, on a des textiles qui arrivent. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que notre nudité vous gêne? D'accord, donc on va mettre nos... Voilà, d'accord. Pas de problème. Alors là, on se couvre parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé. Il a peur, lui, il n'est pas choqué, donc il a peur que ses enfants soient choqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ne sont jamais choqués par la nudité. On n'a jamais vu des enfants choqués. Mais c'est les parents qui pensent que ça peut effectivement les traumatiser. Donc on va essayer de discuter un petit peu avec eux.
Bah pour nous, c'est pas gênant, mais c'est surtout pour les enfants. Faut pas que... Donc, est-ce que si c'est possible que lorsqu'on passe, on va aller un peu plus loin, que vous mettiez sur le côté afin que ça les dérange pas trop. Nous, après, ça nous dérange pas, mais c'est vraiment pour les enfants, pour pas qu'ils soient choqués ou quoi que ce soit.
D'accord, vous avez. C'est une colo, non?
C'est pas une école de sport, voilà.
D'accord. Vine, vous refusez de vous rhabiller quand ce monsieur et les enfants passent. Pourquoi ?
Parce que la liberté, elle est pour tout le monde. Je ne cause aucun tort. Le seul tort qu'il y a, c'est qu'ils ont une vision qu'ils criminalisent. Parce qu'on en vient à ça, hein, à criminaliser le côté naturel de l'être humain. L'être humain est ce qu'il est par nature. Il n'y a aucune raison que je me sente criminel, moi, parce qu'eux ne le voient pas bien. Il faut qu'ils apprennent à ce que les gens soient différents. Et ils ont tout à fait le droit d'être différents, et que je n'ai pas à les considérer comme des criminels parce qu'ils sont différents.
Moi, je pense que par respect pour ces gens, ma foi, c'est tellement facile de se pousser et de les laisser, de ne pas les gêner. C'est un problème de respect, je pense, et de partager, de savoir partager un peu.
C'est ça qui me dérange, que je doive céder au désir de l'autre.
Mais s'il n'y avait pas d'espace, je comprends, mais il y a de l'espace, il suffit de se pousser un peu, ils vont passer et tout se passe bien. Donc pourquoi forcer les choses?
Je ne force pas.
Bernard.
Non, je ne force pas, je ne fais rien. Je ne force pas.
Bah si, parce qu'ils ne peuvent pas passer.
Il
y a un responsable avec des enfants, il est responsable de tous les enfants qui sont là.
Alors si c'était ses parents, ils me disent sur la base de quelle loi il veut imposer ça.
C'est un problème de loi, mais ce n'est pas un problème de loi. C'est un problème de respect. Bah, voilà, ça les gêne, et ben, je pousse un peu.
Les droits de l'homme, c'est juste.
Si demain je fume et que tu me dis que ça te gêne, je vais me pousser, j'irai fumer un peu plus loin.
Mais le tabac est reconnu comme une nuisance. Le tabac tue. L'être humain ne tue pas.
C'est pas une odeur, c'est que l'odeur. Moi, c'est que l'odeur qui me gêne. Je vais pas attraper le cancer parce que.
Mais attends, il y a quand même un point, c'est que si on était dans la forêt tropicale et que là il y avait une tribu de Zoulous, je sais pas, les enfants ils passeraient, ils regarderaient les Zoulous et ils diraient ouais, ils sont tout nus, t'as vu, ils sont pas comme nous, etc. Ils seraient pas du tout choqués.
Exact.
Voilà, donc il y a pas de raison que c'est une question de mentalité. Pourquoi ils sont choqués ici et pas à 500 ou à 1000 km?
Oui. Bon, enfin, ils y sont pas là-bas, donc moi je ramène les choses.
Mais disons, fondamentalement, un homme nu ne pose pas problème. Oui. Parce que c'est comme dit Irvine, il le dit très bien, c'est être nu. Je fais aucune action, je ne me montre pas, je ne me mets pas en évidence.
Je suis nu. Voilà. Être nu, c'est être sans vêtements, ce qui est très différent.
Sylvie, vous vous êtes habillée, vous? C'est une position de femme qui fait que le problème n'est pas le même?
Non. Bon, j'ai renfilé, j'ai rattaché un bouton pour effectivement ne pas apparaître comme ça devant, peut-être effectivement pouvoir gêner les enfants, parce que les adultes, bon, je pense qu'ils peuvent comprendre. C'est vrai que dans la tête d'un enfant, certains vont pouvoir dire si ça gêne ou si ça gêne pas, mais c'est vrai que c'est plus pour eux que effectivement un mal-être pour moi. Ouais, voilà.
Mais comment sais-tu ce qu'il pense ?
Je sais pas.
Voilà.
C'est ça, Erwin. Je sais pas, mais si tu veux, c'est un respect. C'est pas m'imposer. C'est plus par respect, c'est tout. Après, je me dis que peut-être les mentalités vont bouger, mais il y a une évolution pour ça. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt. On n'est pas sur le même niveau.
C'est ça. Vous avez le sentiment d'être quand même dans une position hors norme et par ça de respecter la norme.
Respecter la norme entre guillemets, parce que c'est vrai que ce qu'on fait n'est pas dans les je dirais dans les légalités complètes. À aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui nous dise vous avez l'autorisation ou vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, c'est complètement ambigu. Donc c'est vrai que quand on se trouve dans des cas comme ça, moi je dis qu'il faut avancer, mais tout en étant aussi à une certaine position de degré d'évolution par rapport à ça. C'est mon point de vue. Hein. C'est vrai que je reconnais que les garçons vont plus vite que nous dans ce domaine-là. C'est vrai qu'une femme va prendre un petit peu plus de recul, elle va réfléchir autrement que d'aller et foncer et à se dire le résultat, je ne vais peut-être pas l'obtenir comme ça. C'est comme quelqu'un qui fonce dans le mur, qui se dit bon, tant pis, j'ai loupé, j'ai la tête en sang et on aurait peut-être pu réfléchir autrement pour faire avancer les choses. Voilà.
Pour Sylvie, je me rappelle qu'en Espagne, l'année dernière, la seule personne qui était visée nue quand on était au refuge, ouais, c'était toi. Ouais. Nous, les garçons, ça ne posait pas problème, mais elle, ça tiquait.
J'ai rencontré le même problème cette année à la Cyclonu à Londres. C'est-à-dire que les hommes qui viennent vous photographier sont carrément sur vous, quoi. Dès qu'il y a une femme, ça... Alors, c'est vrai que le regard de la femme par rapport à ça, elle est un petit peu différent. C'est vrai que l'homme, lui, a plus d'assurance, et il accepte que la personne vienne vous voler une image. Certains ont demandé, donc là, j'accepte ou j'accepte pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette façon de procéder dans la démarche, qui fait que dès qu'une femme est nue, alors là, c'est l'attroupement autour, vous respirez plus, quoi. C'est bien dommage.
Ce qui fait que c'est pas aussi désexualisé que vous le voudriez.
Tout à fait.
Parce que pour vous, oui, tous ces randos nus sont totalement hors sexualisation.
Ah, tout à fait. C'est complètement hors sexualisation.
Effectivement, c'est le regard des
on
autres.
Est en groupe d'amis, on se côtoie comme des amis si on était habillés. Il n'y a aucun geste, aucune parole. Ça n'a pas lieu dans les balades parce qu'on n'est pas là pour ça. Je veux dire que chacun a sa sexualité dans sa vie privée. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Mais quand on se trouve en groupe, c'est uniquement de la pure balade et du pur bonheur, quoi. C'est tout.
Pour Sylvie Fassol, présidente de la PNEL, la rando nue a été beaucoup plus qu'un hobby, une véritable renaissance. Atteinte très jeune de polyarthrite, vivant à l'hôpital jusqu'à l'adolescence, plusieurs fois opérée, elle sombre dans la dépression à la mort prématurée de son mari.
Alors mon histoire, elle est un petit peu... Je dirais semer un petit peu d'embûches. Il y a eu la maladie étant enfant. À la suite de ça, il y a eu le deuil. Et j'ai rencontré un ami qui me dit « Écoute, je ne peux pas te laisser déprimer comme ça. » Et donc, il m'a parlé du naturisme en liberté. Donc, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'il existait des centres de vacances, mais la randonnée en liberté, marcher nue dans la nature, pour moi, ça paraissait quelque chose improbable, quoi. Et donc, le mois d'avril arrivant, c'est vrai qu'il a fait des belles après-midi où vraiment il a fait très beau. Et donc, il me dit, écoute, il y a une rando le 23 avril. Si tu veux, tu viens et tu vois un petit peu comment ça se passe. Je te présenterai les gens qui randonnent avec nous. C'est pas forcément toujours le même groupe, hein, bien sûr. Et là, donc, j'ai vu tout le monde se déshabiller tranquillement, poser ses affaires. J'ai posé mon sac. Et puis, tranquillement, je me suis pas posé de questions. J'avais confiance. J'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais sereine. Et donc, j'ai déposé mes vêtements à côté de moi, j'ai repris mon sac à dos, ma bouteille d'eau, et puis nous voilà partis sur les chemins de la forêt. Et là, franchement, on a eu une journée à plus de 20 degrés l'après-midi, donc c'était vraiment un départ extraordinaire, quoi, d'avoir cette sensation de liberté du corps, et puis effectivement de se trouver en communauté dans cette nudité. quelque chose qui n'était jamais arrivé. C'était pour moi quelque chose de tout nouveau et je me disais, c'est possible. C'était pour moi un défi, déjà dans un premier sens, parce qu'au départ, je me disais, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que le regard des autres ne va pas être blessant pour moi? Donc, j'ai fait le parcours à ma vitesse. Et c'est vrai que c'était plus agréable parce que j'ai sympathisé très vite avec les personnes qui étaient là. Les enfants ont posé des questions, ce qui était tout à fait normal, aussi bien que les autres adultes qui m'entouraient. Donc, j'ai expliqué effectivement mon petit parcours médical, entre guillemets. Et puis, y a plus de questions. C'est vrai qu'après la nudité, on ne le voit plus. C'était pour moi des gens avec qui je marchais. Mais la nudité est un état. Mais c'était plus pour moi quelque chose qui n'était plus possible, quoi. Je me disais, mon corps va revivre, va reprendre des sensations, va pouvoir réapprendre. Déjà, il avait souffert, mais quelque part, je me disais, je vais peut-être pouvoir réapprendre à les réadapter et à moi me réconcilier avec lui. Donc c'était pour moi un grand pas, déjà. Et que les autres m'acceptent aussi comme ça. Alors moi, mes propres valeurs, c'est vrai qu'à aujourd'hui, j'aspire à ce qu'il y ait vraiment une cohabitation entre les naturistes et les non-naturistes, c'est-à-dire que chacun puisse avoir la liberté de s'exprimer, le libre choix d'être vêtu ou pas, que ce soit en milieu naturel, que ce soit sur la plage, que ce soit dans tout milieu. Ouais, je veux dire, je sais qu'à aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à pouvoir se dire qu'on peut aller en ville nu, on peut aller faire ses courses nu, mais pour moi, ça serait l'idéal, quoi. Ça serait que chacun puisse dire, moi je peux, si je peux accéder à ce genre de liberté, pourquoi pas.
Habitué depuis l'enfance à vivre nu, Jacques Freeman se bat pour que le droit à laisser de côté ses vêtements soit reconnu comme une liberté essentielle. Pour ce faire, il a créé l'APNEL, Association pour la promotion du naturisme en liberté.
Alors la société, lorsqu'elle veut intervenir sur un individu, a différents types de moyens de pression. Un des moyens de pression, bien sûr, c'est la prison qu'on connaît tous. Mais un autre moyen de prison, c'est le système, en quelque sorte, de pression financière qui impose des amendes. Et pour quelqu'un, effectivement, qui a un revenu relativement modeste, c'est vrai qu'il va réfléchir à deux fois avant d'aller plus loin. Donc si on lui dit « tu dois signer ça », il signera ça. Voilà. L'APNEL, donc, pour éviter le fait que les gens renoncent à défendre leurs droits, a décidé de mutualiser les risques. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a 300 euros d'amende, 500 euros d'amende, 1000 euros d'amende, 2000 euros d'amende, l'ensemble des adhérents, on est aujourd'hui 160 et ça continue à grandir, ça fait que deux ans, hein, mutualise le risque en payant. C'est-à-dire que chacun donne, bon, on dit par exemple, il y a 1000 euros, 2000 euros d'amende, divisé par le nombre de personnes, ça donnera tant. Donc il y en a qui donnent un peu plus, il y en a qui disent je ne peux pas donner, etc. Mais véritablement, la personne qui se sent, sait qu'elle va être aidée. Alors moralement, bien sûr, mais surtout financièrement. Les moyens ne sont pas énormes non plus, donc faut pas non plus aller très loin. Mais ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs dans ce système de mutualisation, c'est qu'on a reçu également des dons de personnes qui ne sont pas naturistes et qui disent c'est inacceptable qu'on fasse une pression financière sur les personnes de façon à ce qu'ils renoncent à défendre leurs droits.
L'abolition de l'article 222-32 est un des buts de l'association.
Pas vraiment, c'est pas un début. Disons que c'est l'interprétation de l'article qui est un début. L'article qui parle effectivement d'agression sexuelle, on est tous d'accord qu'on n'a pas agressé les gens, ni sexuellement, ni autrement. Donc on est tout à fait d'accord avec l'article. Simplement, l'article, l'interprétation de la lecture de l'article est faussée. Parce que nous, on ne se reconnaît pas du tout dans cet article. Mais véritablement pas du tout. La police considère qu'on est tout à fait dans le cadre. Donc là, il y a un problème de pédagogie, d'explication. Et à partir du moment où il y a la pédagogie, l'explication sera faite, et ben, comme le racisme, comme l'homophobie, et ben, la nudophobie disparaîtra automatiquement. Et puis pour les gens qui sont véritablement intraitables, hein, qui considèrent que la nudité, c'est absolument mauvais, et ben, ces gens-là, ben, il faudra effectivement qu'ils passent par la case thérapie ou par la case sanction. Donc on souhaite qu'il y ait, à l'article 222.32 du Code pénal, une autre rubrique concernant la nudophobie.
L'un de ces militants pour la nudité, donc l'anglais Steve Goff, est en prison depuis 3 ans. Vous l'avez rencontré à Glasgow, où il est incarcéré. Qui est ce Steve Goff? Quelle est son histoire?
Alors tout d'abord, ce n'était pas à Glasgow, c'était à Perth. Mais il est allé effectivement une première fois en prison à Glasgow. Il est allé une deuxième fois à Édimbourg, et la troisième fois, maintenant, il est à Perth. Son parcours, en fait, c'est un parcours qui concerne essentiellement les libertés. L'élément fondamental, l'élément fondateur, c'est la liberté, le respect des libertés individuelles. Donc Steve a commencé des traversées en fait de l'Angleterre nu, alors soit seul, soit ensuite accompagné avec une amie, avec des amis. Donc en général, il partait de Cornouailles, allait jusqu'en Écosse. Donc ça lui prenait, il partait au début du printemps et arrivait en fin d'automne. Il a fait plusieurs fois ses parcours. Ses parcours ont été quelquefois un peu tumultueux. Il a rencontré l'agressivité. Il a été battu. Il y a des gens qui étaient effectivement une minorité, une extrême minorité, qui étaient effectivement assez agressifs. La grande majorité n'en faisait pas cas. Il le voyait passer. Effectivement, ça surprenait, ça faisait rire, ça, etc. À son troisième ou quatrième parcours, quelqu'un a porté plainte. C'était la première fois depuis des années, quelqu'un a porté plainte. En disant, voilà, moi j'étais avec mon enfant, ça choque les enfants, etc. L'enfant n'a rien dit, on ne lui a même pas demandé son avis, mais enfin bon, c'est le père qui a dit, ça choque mon enfant. À partir de là, donc, il a été emprisonné. Le problème, c'est que lui, il revendique jusqu'au bout. Il affirme son droit à être comme il a envie d'être, donc il n'a pas envie de céder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est convoqué devant le juge ou devant une juridiction, il refuse totalement d'être habillé. À chaque fois, la juridiction se bloque en disant « si vous ne vous habillez pas, on vous laisse en prison ». C'est complètement illégal parce qu'il n'y a rien qui dit « on laisse en prison quelqu'un » parce qu'on n'accepte pas qu'il soit habillé selon une certaine tenue, quoi, ou l'absence de tenue. Donc, ce militant est en prison depuis 3 ans. C'est exceptionnel en Europe, la vieille terre de la démocratie, d'avoir quelqu'un en prison simplement parce qu'il est nu. Donc là, avec les juridictions successives, puisqu'il est passé d'Édimbourg, comme je disais, à Glasgow, à Perth, on se demande un petit peu comme avec des gamins, quand un juge va être suffisamment intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas danger à laisser un individu se promener nu.
Mais Steve Goff s'obstine quand même beaucoup, donc il va à ses procès en refusant de s'habiller. À peine on le libère de prison, il se redéshabille à la porte de la prison, il y retourne immédiatement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu absurde dans cette obstination?
Au départ, je le croyais. Et en fait, je pense qu'au final, lorsqu'on s'est vu d'ailleurs, la complicité a été totale, il va gagner forcément. Ou s'il ne gagne pas, je ne donne pas cher de la démocratie. Mais forcément, il doit gagner son combat. Et s'il gagne son combat, ça sera 3000 ans d'inhibition judéo-chrétienne qui cause tant et tant de problèmes psychologiques.
Il est dans quel état psychologiquement, lui?
Je le croyais complètement détruit. Quand je l'ai vu arriver fier de son combat, quand je lui ai dit, c'est pareil, je lui ai posé la question, est-ce que tu vas arrêter? Il m'a dit, non, je ne peux plus arrêter maintenant. Ça fait 3 ans que... Et effectivement, il a raison, il faut qu'il continue jusqu'au bout. Son combat.
Vous l'avez vu arriver nu en prison.
Effectivement, effectivement, lorsqu'on a demandé à le voir au parloir, le directeur de la prison a fait le chantage suivant, parce qu'il s'agit bien d'un chantage. Il savait que Steve voulait absolument me voir, parce qu'on se connaît avec Steve depuis 4 ans, communique depuis 4 ans. Donc il y a une grande affinité, une grande sympathie l'un pour l'autre. Donc il savait que ça allait être douloureux pour nous si on n'avait pas la possibilité de se voir. Donc il s'est dit, c'est le moment. Je vais l'obliger à s'habiller pour pouvoir avoir accès au parloir. Ce qui nous a obligés, nous, à faire intervenir la presse. Parce qu'évidemment, le directeur de prison, il n'a pas envie non plus d'avoir la presse sur le dos. Et c'est grâce à la presse, grâce aux médias, que le directeur de prison s'est dit, après tout, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, laissons-les se rencontrer. Et on a pu effectivement se rencontrer. On ne s'est pas mis nus, nous, de notre côté, mais c'est vrai qu'on avait bien envie de se mettre aussi nus.
Irwin vit à Handaï et vit nu. Pour affirmer ce droit, il est allé, comme Steve Goff, jusqu'au bras de fer juridique.
J'ai compris que le vêtement n'avait pas qu'un rôle au niveau tenue vestimentaire, mais il y avait un rôle essentiellement social et un rôle de domination de la société sur l'individu. Et c'est ça que je ne peux plus accepter. Donc, évidemment, au début, j'étais nu sur la plage, sans vêtements sur la plage. Je préfère dire sans vêtements que nu, parce que ça a une connotation automatiquement sexuelle dans le monde actuel. Donc, sans vêtements. J'ai vu le bien que ça m'a fait, et certaines personnes, dont des amis proches, ont commencé à le condamner moralement comme une forme de perversion. J'ai dit, attends, là, il y a quelque chose qui cloche, ça me fait du bien au niveau santé, et on vient me dire que c'est de la perversion, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. En affirmant en plus que c'était une vision générale de la société, que tout le monde le voyait comme ça. J'ai dit, ah bon, tout le monde le voit comme ça? Je vais le vérifier. Et donc, je suis sorti des zones réservées habituellement, et j'ai dit, je vais voir comment réagissent les gens à l'extérieur. Alors, j'ai fait d'abord sur la plage, en sortant des zones de tradition non textile, et j'ai vu que les réactions n'étaient pas si mauvaises que cela. Puis, entre-temps, j'ai découvert qu'à Barcelone, il y avait des groupes qui défendaient la liberté vestimentaire dans son ensemble, et qu'il y avait une reconnaissance officielle comme quoi c'était une liberté d'expression garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Je suis donc allé à Barcelone et je me suis rendu compte qu'effectivement, même s'il y avait des tentatives pour m'obliger par pression ou soi-disant de manière légale à m'habiller, qu'en réalité, quand on expliquait la loi et qu'on montrait que c'est une liberté garantie, il n'y avait pas de problème. J'avais constaté que Barcelone respectait ses engagements de respect de la liberté des autres.
Quelles étaient les réactions des gens qui vous voyaient nus dans la rue?
Alors, il y a de tout, évidemment. J'ai trouvé, moi, qu'il y avait à peu près 90-95% des gens qui réagissaient très bien ou de manière indifférente, 5% de manière plus ou moins désagréable, et parmi ces 5%, 1% de la totalité, de manière franchement agressive. À peine rentré de Barcelone, je continue donc sur ma plage, je me suis dit en plus, on vient de passer l'affaire d'Outreau, on vient de rappeler les droits fondamentaux dans cette affaire qui n'avait pas été respectée. Donc je m'attendais, vu qu'on venait de tirer ses leçons avec la commission parlementaire, qu'il respecte les libertés reconnues officiellement en France et en Europe. Et à ma grande surprise, à peine je suis rentré, 2-3 mois après, la police, pour la première fois depuis des années, m'arrête sur la plage, devant chez moi, en Daille. Ce jour-là, c'était une nuit, 1h30 du matin, il n'y avait donc personne, évidemment, un 1er novembre, c'est pas une journée, une époque chaude, il faisait quand même relativement bon, je descends de chez moi porter ma poubelle, et la police arrive juste à ce moment-là, j'habite face à la plage, donc je traverse la rue, et la police me dit que c'est de l'exhibition sexuelle. Devant personne, il faut le faire, sans victime. Et bon, là, je ne comprends plus. Donc, voilà comment ça a commencé. Et là, on me dit qu'il y aura un procès. Alors, le procès n'a pas eu lieu immédiatement. On sait que la justice est très prise. Donc, il y a eu 6 mois plus tard un procès. Entre-temps, moi, j'ai continué de vivre librement, puisque je connaissais bien la loi et j'en avais fait l'expérience à Barcelone. Droits de l'homme, pas de problème. La loi sur l'exhibition sexuelle traite de choses sexuelles et non pas de tenues vestimentaires. Donc c'était manifestement hors de propos. Donc je dis, ils n'ont aucun argument réel à fournir, je continue. Donc j'ai continué. Tous les à peu près un mois et demi, j'étais à nouveau arrêté. Pourtant je continuais tous les jours pratiquement de sortir sur la plage naturellement. J'ai été arrêté 4 fois au total en 6 mois. Donc il y a eu procès et on a considéré que c'était une atteinte grave, que c'était une atteinte sexuelle. J'ai dit, attends, il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. Exhibition, ne pas porter un vêtement, ce n'est pas une exhibition, c'est l'absence de toute action, c'est simplement un état vestimentaire, zéro. Donc ce n'est pas une action, ce n'est donc pas une exhibition puisque je ne montrais rien, sinon que je ne cachais pas, et ça n'a rien de sexuel. Dites-moi comment on peut interpréter quelque chose qui est vestimentaire et non sexuel comme un acte érotique public. Malgré ça, j'ai été condamné, j'ai fait appel de la décision, ça a été encore pire en cours d'appel. Je me suis pourvu en cassation qui n'a pas jugé possible légalement de reprendre le jugement. Je suis donc parti en cour européenne. Alors, à partir du moment où j'ai été condamné en France, l'Espagne, dans la ville plus proche de chez moi, San Sébastien, qui est à 25 km, a commencé, elle aussi, à me poursuivre sur la base d'un texte similaire en Espagne, qui est aussi un texte sur l'exhibition obscène en Espagne et provocation sexuelle.
Pourquoi vous battez-vous dans le fond ? C'est uniquement pour arriver à un monde où la nudité soit acceptée de la même manière que l'habillement, ou ça va plus loin pour vous ?
Pour moi, ça n'a aucun rapport avec la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire n'a été pour moi qu'un instrument. C'est-à-dire, on m'a condamné pour quelque chose qui me faisait du bien au niveau santé, et il se trouve que c'était la nudité. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une question de tenue vestimentaire. Pour moi, j'en ai rien à faire. Criminaliser le fait de ne pas porter de vêtements, c'est rentrer dans une logique de discrimination d'une partie de la société. Et ce n'est pas acceptable. Moi, en tant que citoyen responsable qui voit ça, je ne peux plus accepter de rester silencieux devant ça et de dire « ça ne me touche pas, donc je ne m'en occupe pas ». Ça me touche autant, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je n'ai pas envie qu'ils voient à leur tour se retrouver à nouveau dans une société qui va écarter qui sait qui et quand, pour qui sait quelle raison, parce que, à ce moment-là, certaines personnes intolérantes ont décidé de les criminaliser. Ce n'est pas acceptable.
Les manifestations de revendication par le nu existent finalement depuis, je pense, à peu près le 19e siècle.
Francine Barthes de Loisy, sociologue, auteur de Géographie de la nudité.
On a des témoignages de revendications par la nudité dans les groupes libertaires, anarchistes, antimilitaristes surtout, qui se servaient de la nudité. C'était des hommes, en fait, qui se mettaient nus pour refuser d'aller à la guerre. Mais ce sont des cas extrêmement singuliers. Et il s'agissait d'individus et non pas de groupes. Ce qui est nouveau depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est extrêmement difficile de fixer une date précise, mais ce qu'on en sait, ça date de la milieu des années 90, où la pratique de manifestations nues collectives pour revendiquer, là, ça commence à se généraliser. Il y a une typologie qu'on pourrait mettre en évidence, tout le registre protection de la nature, c'est-à-dire les animaux, la défense, par exemple, des animaux à fourrure, la déforestation, la réouverture d'une mine, par exemple, le mouvement de paysans sans terre, sur le réchauffement de la planète, sur... essentiellement, ça a à voir avec... On est dans la nébuleuse pacifiste écologiste, essentiellement. La nudité, c'est en quelque sorte une métaphore du discours. Si je suis devant un CRS en armes et que je suis nu en face de ce personnage, je n'ai que mon corps pour dire... Mon corps, ma présence et mon individu et ma volonté de faire connaître mon combat, je n'ai plus que ça pour exprimer. Donc, il y a une espèce d'effet extrêmement fort. C'est le faible contre l'homme en armes. C'est celui qui n'a plus que son corps pour dire les choses. Très souvent, d'ailleurs, il y a des gestuels symboliques qu'on observe dans les photographies. On voit des hommes avec les mains qui sont levées en croix, comme ça. Et les photographes se saisissent de ces images parce qu'elles parlent. Il y a aussi cet aspect de l'affrontement avec le courage qui va avec cette nudité. Et c'est vrai qu'il faut être courageux pour faire des manifestations nues. Donc la deuxième métaphore, je reviens sur cette idée, c'est se servir du corps comme support de l'être. C'est-à-dire qu'on va avoir, dans certaines manifestations, les militants qui vont chacun... se servir de leur corps pour écrire une lettre, et ils vont, en s'associant les uns à côté des autres, ils vont écrire un discours. Donc c'est le corps qui est un discours, comme ça a été le cas pour des féministes américaines qui pendant un hiver qui était extrêmement rigoureux parce qu'il y avait de la neige, elles s'étaient couchées par terre devant la Maison Blanche en inscrivant avec leur corps « No war », juste sous les fenêtres de la Maison Blanche. Et c'était extrêmement impressionnant parce que leur corps avait été recouvert de neige et on avait du mal à identifier la nudité, mais en tous les cas, on voyait parfaitement bien ces lettres inscrites avec le corps.
Cette faiblesse du corps a été mise en avant par les cyclonudistes. Long défilé à vélo dans le plus simple appareil, les cyclonus ont lieu régulièrement à Londres, à Barcelone, à Brighton, où elles attirent des foules de plus en plus nombreuses. À Paris, une tentative initiée en 2007 et renouvelée en 2008 s'est heurtée à l'hostilité très forte de la police. Pierre-Emmanuel Petit, l'un de ses deux organisateurs, raconte.
Alors l'idée n'est pas née à Paris, elle est née il y a plusieurs années, maintenant ça doit faire je pense 7-8 ans. C'est né à Saragosse en Espagne, l'idée de manifester nu. Il y a 2 ans, on a pour la première fois décidé de reprendre l'idée texto et d'organiser donc une grande manifestation cyclonudiste à Paris. Le but de cette manifestation, c'est de manifester en vélo nu pour mettre en avant la fragilité du cycliste dans le trafic urbain. Alors la première cyclonudiste, on avait réuni un certain nombre de personnes au jardin de Reuilly. Et je dois dire qu'au moment du départ, on a pris la décision à cause d'un certain nombre de menaces entre guillemets qu'on avait reçues. On a pris la décision d'annuler officiellement la manifestation. Ça a permis qu'elle ait eu lieu finalement sauvagement. Il y a eu pas mal de gens complètement dénudés. Donc c'est à mon avis ni la préfecture ni nous n'y avons gagné. Et la seconde année, là la préfecture de police avait pris la mesure de l'enjeu, puisqu'il devait y avoir à peu près autant de CRS que de manifestants. Et la manifestation a ce coup-ci eu lieu avec les organisateurs. Néanmoins, les quelques personnes qui ont tenté de se dénuder entièrement ont été très rapidement interpellées avec violence et de manière complètement excessive.
Les membres du collectif féministe Les Tumultueuses ont décidé, elles, d'enlever leur haut de maillot dans les piscines municipales pour demander l'égalité vestimentaire entre hommes et femmes. Reportage de Yasmine Ferreira, diffusé en juillet dernier sur Génération FM. Extrait.
On va rentrer, on va longer la piscine ici, parce qu'ici c'est petit bassin, et en fait c'est graduel. Du coup comme ça, là, ça prend un peu plus de temps, ça nous permet de barboter, genre tranquillement, sans l'air, après on peut faire des petits cobbières, machin. Et donc voilà, donc je pense comme d'hab, quand on attend, on essaie de tenir 15 minutes, on papote avec les maîtres nageurs, en expliquant bien qu'on n'est pas dans un truc naturiste mais féministe. Voilà.
Quand est-ce qu'on enlève le haut ?
La réaction des maîtres nageurs ne s'est pas fait attendre.
Vous connaissez la réglementation des piscines ?
Bah justement, en fait, dans les règles, c'est interdit. En fait, justement, sur les réglementations, c'est souvent précisé que le maillot est obligatoire, mais pas précisé que le maillot des hommes est différent de celui des femmes.
Avec un tel argument, finalement, ils les laisseront se baigner et interpeller les nageurs qui, globalement, réagissent positivement à cette action.
Personnellement, moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui ne me gêne pas. Après, c'est plus les gens qui sont, je pense, un problème avec la nudité, avec l'image au corps, le rapport au corps.
Moi, je trouve ça très bien. Enfin, j'ai nagé dans d'autres pays aussi, par exemple avec des Norvégiennes. Les Norvégiennes sont tout le temps comme ça, elles nagent topless.
C'est leur choix, c'est leur liberté.
Moi, pour les enfants, je dis non.
Je suis pudique, je le ferai pas, mais ça me choque pas.
Enfin, l'idée, c'est que les seins sont, en Occident en tout cas, un symbole sexuel. Et donc, lorsqu'on dévoile un symbole sexuel, forcément, ça provoque des réactions au niveau sexuel. Donc, en public, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Elle est bonne et ça fait du bien de pouvoir nager libre.
Mais cette liberté a au moins une limite, le directeur de la piscine.
Je vais m'arrêter ça.
Non, ouais, vous pouvez me... Il n'y a pas de...
Au-delà de l'action même et donc de la première revendication qui est de demander que les femmes comme les hommes puissent aller en monokini à la piscine.
Naomi,
en fait,
militante.
Dans nos actions, et c'est ce qu'on dit bien dans les tracts qu'on distribue, qui sont plastifiés et qu'on distribue à la piscine, au moment des actions, ce qu'on souhaite, c'est sensibiliser les gens et soulever la question du problème des normes de beauté chez les femmes, qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus sévères que chez les hommes. Il en existe également chez les hommes. Je pense quand même que la question du poids, ça pose aussi un certain problème chez les hommes. Mais c'est évident que chez les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Elles sont beaucoup plus sévères et opprimantes. Et que, d'une certaine manière, ça, on veut avoir un discours sur le corps qui est de dire toutes les femmes doivent pouvoir... être exactement comme elles veulent et montrer ce qu'elles veulent ou ne pas montrer ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que nous, on a aussi un discours sur le voile qui est contre l'interdiction du voile, parce qu'on pense que c'est pas en interdisant des choses qu'on arrive à lutter contre, même si peut-être que, enfin, c'est pas un symbole qui nous plaît forcément, mais au même titre qu'on va pas interdire la mini-jupe ou les talons aiguilles, on pense qu'il faut pas interdire le voile, on pense que chacune a le droit de choisir ce qu'elle veut montrer, ce qu'elle ne veut pas montrer. On n'a pas non plus envie qu'on retienne notre groupe comme les filles qui se mettent seins nus, parce qu'on fait beaucoup d'autres actions, parce qu'on travaille sur beaucoup d'autres choses, et qu'en plus, le message finalement de cette action est beaucoup plus large que la simple action elle-même. Donc finalement, la nudité n'est qu'une sorte de moyen d'arriver à faire passer beaucoup d'autres messages très importants pour nous.
Ce geste pour vous d'enlever le haut dans un lieu où les gens l'avaient vous a posé un problème? Ça a été difficile à faire ou pas du tout?
Moi j'avoue que
Laura, militante.
Ça a été le cas pour plusieurs d'entre nous. Le fait de l'enlever la première fois, ça a pu être quelque chose de potentiellement violent. Puisque la pudeur et la socialisation nous a appris que c'était effectivement quelque chose qui ne se fait pas, et on a quand même, justement, c'est tout l'objet de notre discours, une certaine honte de notre corps. C'est vrai qu'on avait dit celles qui ne sont pas, qui ne se sentent pas de le faire, le gardent, même si elles font l'action aussi, parce que pour pas mal d'entre nous, on se disait bon, en même temps, on a envie de le faire, mais c'est un peu stressant de se retrouver, ce qui moi personnellement m'était quasiment jamais arrivé, parce que moi-même je faisais pas de seins nus sur les plages ou quoi que ce soit. Et en fait, justement, et c'est ça où on était contentes et de ces actions, c'est que je pense que toutes vraiment, ça nous a vraiment aidé avec l'acceptation de nos corps, puisque en fait, de se retrouver à plusieurs au bord de la piscine avec un message à porter, finalement, on l'a tout enlevé, même celle qui était réticente, et on s'est senti super bien. On rigolait, on parlait avec les gens, et de sentir que effectivement, ça posait une vraie question et qu'il y avait un intérêt. De la part des nageurs, c'est vrai que d'avoir le discours qu'on ait des petits seins, des gros seins, qu'on soit pas dans les normes, qu'on soit ronde ou pas, poilue ou pas, marre de cette oppression à la norme, et de se dire on est toutes ensemble, on est différentes, puis finalement de se sentir bien les unes avec les autres en se regardant et se rendant compte en fait finalement de la banalité de la chose, hein, c'est-à-dire à quel point finalement on s'en fout quoi.
Est-ce que le corps est désérotisé ou est-ce qu'il y a des processus d'érotisation qui jouent? Là, il faut s'arrêter sur deux points de vue. Le point de vue de celui qui regarde et le point de vue de celui qui agit. Dans le cas de celui qui manifeste en se servant de sa nudité, je pense qu'il y a une volonté de désérotiser le corps, tout en jouant quand même sur le fait qu'il y a dénudation des parties sexuelles et on transgresse un tabou. D'où l'impact extrêmement fort de ces manifestations nues. Donc, on désérotise le corps tout en sachant qu'on va jouer sur un registre qui va toucher le spectateur. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut affirmer ça? Le premier point, c'est le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, souvent. Le deuxième facteur, c'est qu'on a des corps qui ne sont pas forcément, ces corps qui manifestent, hein, ces nudités, ne sont pas forcément, systématiquement, des corps de personnes jeunes, c'est-à-dire sexuellement attractives.
Alors qu'une organisation comme PETA, par exemple, oui. Joue totalement, oui. Elle, là-dessus.
Ils ont utilisé des mannequins, hein, des mannequins célèbres, des top modèles pour la cause. Alors là, ça joue d'une façon extrêmement précise sur le registre de la séduction pour mieux faire passer le message. Ça, c'est un argument de publicitaire.
PETA, c'est People for the Ethical Treatment of Animals, une organisation qui milite pour les droits des animaux. Ils se sont fait connaître il y a quelques années par une campagne contre la fourrure qui montrait des top modèles de face et totalement nus et affichait le slogan « plutôt à poil qu'en fourrure ». Nicolas Gresset, responsable de PETA France, a participé à plusieurs actions nues.
La première action à laquelle j'ai participé en me dévêtant était en juin 2007 et était une action qui précédait une action de plus grande ampleur qui se situait à Pampelune, donc pour dénoncer les lâchers de taureaux et les corridas qui s'ensuivent lors des festivités de la Saint-Firmin. Mon sentiment a été dans un premier temps un petit peu de pudeur, bien sûr, parce que c'est toujours difficile de se dévoiler en public, d'autant plus quand on est un nombre limité de personnes face à un objectif d'un photographe professionnel. Ça a été vite éclipsé par le sentiment de mettre mon corps à profit à une cause qui m'est très chère et quelque chose qui transcende ce sentiment de pudeur, c'est-à-dire la mort d'animaux, la mort gratuite d'animaux, juste pour le divertissement à une époque qui se veut civilisée. Quand on se retrouve nu, allongé par terre avec des banderies, ça représente vraiment la faiblesse et la souffrance du taureau face à l'homme qui, dans un combat, dans un duel qui est tout à fait inégal. Concrètement, c'était la première action de ce type qui avait lieu à Paris et pour cette cause, en l'occurrence, militer contre la corrida et contre la tauromachie. C'était le 27 juin 2007, si je ne m'abuse. Et nous n'étions que 5 militants, 2 filles et 3 garçons sur le parvis des droits de l'homme face à la Tour Eiffel, pour faire la publicité de notre cause. Si l'on utilise la nudité, il ne faut pas se leurrer. C'est bien sûr pour se donner un écho le plus grand, le plus large possible. C'est malheureux qu'il faille user d'arguments marketing de ce type pour pouvoir attirer l'intérêt et l'œil médiatique. Mais bon, c'est un fait qu'aujourd'hui, les médias sont un pouvoir que l'on ne peut éviter si on veut faire la promotion d'idées qui sont un peu en avance, c'est-à-dire les droits des animaux.
La seule chose qu'on constate, c'est que la pratique se généralise et qu'elle est mondiale maintenant. Même en Chine, on trouve ce genre de manifestation. Je pense à une manifestation de jeunes Chinois. Il y avait 650 jeunes étudiants qui ont manifesté contre l'édification d'un barrage en se mettant nus et en traversant la rivière, en se donnant la main. Là encore, hein, il y a une métaphore extrêmement puissante sur le pont humain qui était fait avec les corps. C'est extrêmement difficile de savoir l'impact, de mesurer l'impact de ces manifestations. Mais ce qui est sûr, c'est que le message, il passe, il est entendu grâce à la nudité.
À se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue franchement que c'est grisant. Nu au soleil, complètement nu au soleil.
Merci à Sylvie Fassol, Jacques Freeman, Irouine, Sylvain et Bernard, membres de l'APNEL. À Francine Barthe-Deloisy, sociologue. À Pierre-Emmanuel Petit et Philippe Coulon, organisateurs de la cyclonue parisienne. À Laura et Naomi, des tumulteuses. À Nicolas Gresset, responsable de PETA France. À Cécile Rogue et Yasmine Ferreira.
Je me vois cachée dans les rochers, nue au soleil.
Attaché d'émission, Laure-Hélène Plancher et Christine Gage. Coordination, Joseph Confavreux. Prise de son, Christophe Michou, Étienne Leroy. Mixage, Pierre Mine. Réalisation, Rafik Zénine. Nu en public pour la bonne cause, un documentaire de Hubert Prolongeau pour Sur les Docs.
Je suis bien et le monde tourne. les bras nus au soleil. Complètement nus au soleil. Complètement nus au soleil. Complètement nus au soleil. Complètement nus au soleil.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 septembre 2009.